Info Club Sandwich. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure d'Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative préférée. À écouter sur le 87.7 FM, sur le DAB+, ou sur le site radiocampusamiens.fr. Au programme aujourd'hui, un reportage de Lina et Maëlle sur leur formation éducation aux médias et à l'information, et une chronique sur la série Off Campus qui fait un carton. Côté musique, je vous propose d'écouter Sabali, Damadou et Mariam, et Lina nous fait découvrir Bags de Cléro. Et juste après notre Info Club Sandwich, on vous propose une émission sur le week-end de Saint-Leu, qui a lieu du vendredi 29 au dimanche 31 mai. Mais avant tout ça, on écoute le reportage de Maëlle et Lina.
Bonjour, moi c'est Maëlle. Vous me connaissez peut-être pour MUF, l'émission qui est diffusée tous les mardis soirs sur Radio Campus Amiens. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça, ça n'a rien à voir. Je suis actuellement en service civique communication à Radio Campus et je suis là pour vous présenter un reportage qu'on a fait avec Lina.
Le 11 et 12 mai dernier, moi et Maëlle, on a assisté à une formation intitulée Éco-Libre, organisée par la Friche et l'association Carmen dans le cadre du réseau Hémicycle. La formation avait lieu sous les toits de la Maison du Théâtre.
Et oui, c'était donc une formation sur l'éducation aux médias et à l'information qui était donnée par deux intervenants qu'on va laisser se présenter.
Je m'appelle Lucas Roxo, je suis réalisateur de documentaires et depuis une dizaine d'années, j'anime des ateliers d'éducation aux médias et à l'information inspirés par les techniques d'éducation populaire. Et c'est ce qui m'a mené à cofonder un collectif qui s'appelle La Friche, qui est une association qui est basée à Roubaix dans le Nord et qui propose des ateliers d'éducation aux médias et à l'information, des ateliers artistiques, mais aussi des formations et de la production participative.
Bonjour, moi c'est Julien Pitinum, je suis photographe. Tout comme Lucas, j'ai cofondé le collectif La Friche et je suis coordinateur du Labo 148, un projet média artistique pour des jeunes 15-30 ans à la condition publique à Roubaix.
Qu'est-ce que signifie le mot La Friche et pourquoi vous avez choisi ce nom ?
La Friche, c'est un nom qui est venu un peu naturellement pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, comme on était tous et toutes basés à Roubaix au moment de cofonder La Friche, qu'on a monté avec Julien Pitino, mais aussi avec deux autres personnes, Sherazade, Sheikha Ikshaila et Flora Béouin. Et en fait, Roubaix, c'est une ville industrielle où la désindustrialisation a fait que beaucoup d'usines ont disparu, mais beaucoup de monuments, de ruines de ces usines sont restées et ont été réhabilitées dans ce qu'on appelle des friches culturelles. Donc Roubaix, c'est une ville pleine de friches. Et ça symbolise assez la ville, qui est une ville qui est assez mal perçue dans les médias traditionnels, assez mal racontée en général, mais où il y a plein de petites graines ou de petits projets, de petites initiatives, de petites choses en fait qui naissent à l'intérieur de ces friches-là, quoi. Donc c'est pour ça que c'était une image qui nous parlait. Et puis après, on a essayé d'en faire un acronyme. Et du coup, Friche, en réalité, ça veut dire fabrique raisonnée d'informations collaboratives, horizontales et émancipatrices.
Qu'est-ce que l'école libre et comment est né le partenariat avec l'association Carmen ?
Alors l'école libre, c'est une formation qu'on a montée du coup avec les quatre fondateurs du collectif La Friche, avec cette idée que déjà nous on s'est rassemblés parce qu'on avait les mêmes visions et on a mis en commun nos pratiques. Ces pratiques, on les a expérimentées depuis plus de 10 ans, 15 ans, et que au bout d'un moment, tu te dis bah, comment en fait tu peux partager ce que tu as créé, en tout cas ce que tu as imaginé et des expériences que tu as vécues, et comment tu peux le partager. Et cette formation, elle naît en fait de cette volonté de pouvoir partager ce modèle qu'on essaie de mettre en œuvre. Et par ailleurs, c'est aussi parce qu'il y avait un soutien aussi de la DRAC, parce qu'il y a eu le réseau Hémicycle et Carmen aussi depuis le début, que cette formation elle a été beaucoup faite aussi dans la région, dans les Hauts-de-France. Donc le partenariat avec La Friche pour monter cette école libre, il existe déjà à la création aussi du réseau Hémicycle porté par Carmen. Donc voilà, on fait partie des murs de ce réseau, mais surtout on continue à construire ensemble des choses, et cette formation elle permet aujourd'hui d'avoir formé entre 300 et 400 personnes en 7 ans, 8 ans. Donc voilà, c'est déjà pas mal à notre endroit.
Qui peut assister à la formation ?
L'idée de l'école libre, c'était effectivement, c'est un espace de transmission, de formation, mais en fait, on aime bien utiliser l'expression école libre et pas l'expression formation, parce que pour nous, c'est avant tout un temps d'échange et de mise en réseau de gens en fait, qui ont envie de faire des ateliers d'éducation aux médias à l'information, qui ne savent pas forcément où le faire et qui se retrouvent dans des valeurs qui sont proches de celles de l'éducation populaire. Donc l'idée d'école libre, c'est vraiment de faire référence à cette idée d'éducation populaire, d'éducation horizontale, non descendante, et d'essayer de remettre aussi l'éducation aux médias à l'information dans, au centre d'un espace qui existe depuis très longtemps, qui sont les médias participatifs. Médias participatifs dont fait partie Carmen depuis une quarantaine d'années. Avant de s'appeler Carmen, ça s'appelait Canal Nord. C'était une télé dans les quartiers d'Amiens Nord. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est parce qu'on fait tous partie de cet héritage de l'information participative, des médias de quartier, des médias de proximité, qui font de l'éducation aux médias à l'information depuis très longtemps, sans forcément l'appeler comme tel, mais qui font de la production participative. Et on s'est rencontrés avec Carmen. On s'est rencontrés avec Carmen autour de ces valeurs-là, vraiment d'utiliser l'information comme un outil de lien social. Et on s'est rencontrés là-dessus, on a commencé à monter des projets ensemble, et puis en fait on s'est plus jamais lâché depuis, jusqu'à monter le réseau Hémicycle et continuer à monter des projets ensemble aujourd'hui.
Avec toutes vos années d'expérience, à quel point est-ce que vous inventez encore des nouvelles choses à chaque nouvelle formation, et comment est-ce que vous répartissez les rôles pour animer le temps de la formation sur 2, 3, 5 jours?
L'école libre, c'est vraiment c'est un temps d'échange en fait. C'est vraiment un espace où chacun et chacune vient et parle de son endroit et raconte ce qu'il fait, ce qu'elle fait, ses doutes, ses questionnements, les choses qui ont réussi, les choses qui ont échoué. Et en fait, nous, on se met dans ce lot-là. Et donc, d'une certaine manière, la formation, elle n'est jamais la même. Parce que, en fait, nous, on arrive avec aussi en tête les derniers projets qu'on a montés, les choses qu'on a vues, qu'on a observées, les questionnements qu'on a. C'est un espace d'analyse de pratique. Donc, il y a toujours des sujets différents qui émergent. Là, en l'occurrence, dans celle-ci, il y a beaucoup eu des questions autour de comment on aborde les questions de subjectivité, d'objectivité. Il y a la question de l'intelligence artificielle qui a débarqué dans les problématiques d'éducation aux médias à l'information récemment et que forcément on doit intégrer. Donc nous, on propose juste un cadre, en fait, avec des outils qui permettent à ces enjeux d'émerger et d'être discutés collectivement. Et puis c'est collectivement qu'on arrive à trouver des solutions à toutes ces problématiques.
Sur la répartition des rôles, est-ce que via votre personnalité, naturellement, vous animez un peu différemment?
Oui, je pense qu'on anime de manière différente. Et c'est ça la richesse de ce collectif, et aussi de faire ces formations ou ces espaces-là à plusieurs. Évidemment, Lucas, c'est pas moi, je suis pas Lucas, et inversement, enfin, et même Sherazade, etc., et que c'est des profils complémentaires. Moi, je sais que je fonctionne pas de la même manière. Je suis un peu... C'est pas moins scolaire, mais j'ai un côté différent, un peu plus organique, un peu plus dans la réaction. Mais c'est surtout comment on met en partage ces expériences, et on part avec le même fond. Et après, on l'exprime d'une autre manière et elles sont complémentaires, ce qui permet que dans une formation, ben, y a des affinités qui se créent en fait, avec un formateur ou une formatrice et des participants. Et en fait, ça offre plus de possibilités à des gens d'avoir des liens privilégiés ou en tout cas de s'y retrouver un petit peu plus. Donc, la répartition des rôles, elle se fait assez naturellement. On se connaît depuis longtemps, ces formations, on se disait, on a fait une vingtaine de formations là. Donc je ne les ai pas toutes faites, on ne les a pas toutes faites, mais en fait on a travaillé ensemble et on travaille toujours ensemble depuis des années. Donc il y a quelque chose d'assez naturel dans ce qui s'organise.
Est-ce qu'il y aura d'autres sessions de formation dans les mois qui viennent ?
Les écoles libres, depuis le début, elles sont gratuites. En fait, on souhaite les proposer gratuitement parce qu'elles s'adressent à des professionnels soit de l'information, soit de l'animation socioculturelle qui n'ont pas forcément des possibilités d'avoir des financements pour de la formation. Et donc, ou des gens qui sont précaires, et en fait on a envie que tout le monde puisse y participer, donc on les propose gratuitement. Nous, on les finance et on se rémunère sur l'animation grâce à des subventions publiques ou privées. Et en fait ça dépend, chaque année on redépose des dossiers de financement et c'est les réponses à ces dossiers de financement qui nous permettent d'organiser 1, 2, 3, 4 écoles libres dans l'année. Donc là on a déposé les financements pour l'année prochaine, on espère pouvoir en refaire une à Amiens, c'est le projet. Et donc il faut suivre soit les réseaux sociaux de La Friche sur Instagram, collectif La Friche, ou bien faire partie du réseau Hémicycle et recevoir par mail les propositions de formation et d'écoles libres. Et donc c'est possible de s'inscrire à chaque fois en nous écrivant.
Le début de la formation était consacré à se rencontrer à travers plusieurs jeux brise-glace. Au cours de la première journée, on est progressivement entré dans le sujet avec des activités en groupe.
On a un petit jeu à vous faire faire, peut-être parce qu'on en a marre d'être tous assis autour de la table. C'est un petit outil qui s'appelle le portrait numérique. Vous allez vous mettre par groupe de 4 et puis on va vous donner des gens. Et puis vous allez devoir faire un portrait de ces gens uniquement à partir des données que vous trouvez sur les internets. L'idée vraiment de ce jeu, c'est essayer de raconter des choses qui sont pas forcément évidentes. Si vous nous dites Julien Pitinome est cofondateur de la Friche, il est photographe, il a notamment travaillé à Calais par exemple, bon, c'est des choses qu'on sait déjà. Donc essayons de faire un portrait de choses un peu moins évidentes. Sans vous poser des questions. Et donc on se donne 15 minutes.
Le dernier exercice au terme de la deuxième journée consistait à concevoir en petits groupes une séquence d'ateliers d'éducation aux médias avec un cadre et un public imposé. Par exemple, moi je devais imaginer une série d'ateliers qui s'étalait sur un an dans un collège avec des élèves pour créer un livre dont vous êtes le héros.
On vous écoute.
Alors, ça se passe au collège, c'est l'écriture d'un livre dont vous êtes le héros, qui au début pouvait être autour du projet du harcèlement, ça a un petit peu évolué. On va plutôt parler du bien vivre ensemble ou de la question de la violence au sein des collèges. Donc, un, le désir, c'était le chapitre, c'est une volonté du CDI de s'associer à la résidence d'un auteur pour une écriture. L'idée, c'est que c'est une contribution volontaire, c'est ce qu'on avait dit.
Un atelier où les jeunes ils peuvent s'inscrire s'ils le souhaitent, c'est pas obligatoire, mais c'est pendant le temps scolaire.
À l'issue de cette formation, on est allé discuter avec deux de nos camarades qui suivaient la formation avec nous.
Hello, moi c'est Maxime et du coup je travaille en tant que bénévole à l'association Carmen Amiénoise qui fait de l'audiovisuel participatif.
Claudia, je fais partie d'association Passe à Passe au Théâtre de l'Opprimé et je bosse pour tout un peu ici à Amiens.
Comment vous avez entendu parler de la formation et qu'est-ce qui vous a mené, poussé à la faire ?
La chose plus intéressante, qui est moi, j'ai déjà eu le contact de Carmen, on a déjà travaillé ensemble et on est toujours en échange et elle partageait l'information. On a dit on vient parce que nos théâtres de l'opprimé, on bosse par une technique aussi des théâtres journal et c'est toujours bien de se remettre une question, de voir les gens travailler et connaître les gens ici en Amiens qui bossent dans la même direction quoi, et langage différent.
Moi personnellement, en tant qu'étudiant, en fait, j'aimerais être médiateur culturel et on m'a filé une place comme ça fait 3 ans que je suis à Carmen. J'ai entendu parler de cette formation et forcément, j'étais un peu jaloux des personnes qui y allaient. Donc j'étais très curieux en fait de savoir comment ça allait se dérouler et autrement, l'EMI, c'est un terme que j'ai déjà entendu parfois mais que je ne connaissais pas vraiment très bien. Enfin voilà, j'étais juste très curieux.
Qu'est-ce que vous avez découvert dans cette formation ? Et est-ce que vous allez en garder des choses pour votre futur professionnel ou personnel ?
Tellement découvert de trucs. déjà, ce que c'est que l'éducation populaire, on n'a jamais vraiment posé le mot dessus, mais en tout cas, je pense avoir expérimenté ce que c'était un peu à travers des ateliers et tout. Et c'est très parlant, je trouve. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'horizontalité de la parole. À chaque fois, les deux formateurs, deux animateurs avaient pour... penser vraiment à toujours partir de notre vécu, nos ressentis, nos besoins, de ce qu'on voulait faire. Et j'avais jamais l'impression que les choses nous étaient imposées, alors qu'en fait, il y a quand même un cadre, finalement. Et donc je trouvais ça très intelligent dans la répartition de la parole. Tous ces ateliers-là, enfin, je trouvais ça très ludique, on apprenait en s'amusant, et en fait, on est toujours... Moi, j'étais étonné de toutes les choses que j'ai appris en fait sans avoir l'impression d'apprendre.
Et toi Claudia, je crois que tu as du coup déjà beaucoup d'expérience dans ce domaine. Est-ce que tu as quand même découvert des choses ?
Ah, j'ai découvert plusieurs choses parce que j'ai de l'expérience, mais l'abordage elle est différente. Le déroulé pédagogique elle est différente, l'approche avec les gens c'est différente. Moi, la chose que j'ai appréciée beaucoup, c'est le binôme, la façon de travailler, qu'ils ont vraiment respect un vers l'autre et toute la connexion de chaque exercice, toute la proposition, c'est très fort et intéressante. J'ai découvert de nouvelles choses, par exemple la photo-image, la façon de le travailler. D'analyser ma photo et s'y positionner par rapport à la photo. Et après, je garde dans cette formation déjà la connaissance des gens que je vois toujours, mais qu'on n'a jamais s'y parlé. Par exemple, toi, je te connais, on s'y voit, mais on n'a jamais parlé. Et on a construit tous ensemble combien de projets aujourd'hui qui c'est possible d'être applicables dans la région et peut-être au-delà d'Amiens. Et donc, pour moi, ça, c'était ma richesse. En 2 jours, la possibilité de rencontrer, construire des projets collectifs et surtout partager de façon horizontale. Pour moi, c'était génial.
Est-ce que vous pensez refaire, re-suivre une formation sur ce thème-là, sur le thème de l'EMI ?
Ah, moi, je pense refaire la formation de 5 jours pour approfondir vraiment l'expérience, parce que je ne suis pas journaliste, je bosse dans le sens de théâtre, mais c'est très important qu'il y ait le savoir-faire de chacun, grandit l'expérience d'autres dans cette direction-là. J'ai envie de refaire.
Moi, oui, tout à fait. J'aimerais vraiment faire une formation bien plus longue sur ça, voire carrément m'orienter un peu vers ça professionnellement, en fait, faire l'éducation aux images et aux médias. Parce que j'ai réalisé, je pense, que durant la formation, c'est vraiment quelque chose de très actuel et de très politique. Et en fait, c'est très engagé, quoi. On pose pas toujours les mots dessus, mais en fait, vraiment, c'est ça. C'est hyper engagé et c'est tellement important, je pense, aujourd'hui, de faire de l'éducation aux médias et à l'image. Que j'y trouve un sens en fait, et surtout c'est vraiment un domaine en expansion, en pleine expansion, et c'est en ça que je trouve aussi l'EMI intéressant.
Et alors toi Lina, qu'est-ce que t'en retiens de cette formation ?
J'ai appris beaucoup de choses, j'ai réfléchi sur différentes thématiques nouvelles pour moi, j'ai pu rencontrer des gens de différents domaines, d'ailleurs ça m'a beaucoup inspirée à tenter moi-même un jour l'expérience de l'animation. Et ça nous a poussé toutes les deux à s'inscrire à une autre formation dans le même domaine. J'ai beaucoup apprécié. Merci à tous. Et toi Maëlle ?
J'ai complètement découvert l'éducation aux médias. C'est un sujet que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai surtout adoré tous les jeux d'éducation populaire qu'on a pu faire à travers ces 2 jours. Je trouve que c'est des super outils pour se rencontrer et surtout aussi pour travailler, pour créer ensemble. Et puis les rencontres qu'on a faites ce jour-là, comme tu disais, rencontrer des gens de plein de domaines différents, c'était très très agréable comme expérience. Donc pareil, merci à tous.
D'écouter Sabali, Damadou et Mariam, toujours sur Radio Campus Amiens. Maintenant, comme je vous l'ai dit en début d'émission, je vais vous parler de la série Phénomène Off Campus, disponible sur Prime Video. Inspirée du livre The Deal de l'autrice Elle Kennedy, la série raconte l'histoire d'Anna, une jeune étudiante passionnée par la musique, et de son camarade de classe Garrett, qui ne jure que par le hockey sur glace. L'intrigue de départ est qu'Anna est secrètement amoureuse de Justin, le chanteur populaire du campus, et Garrett, de son côté, a cruellement besoin de cours supplémentaires en philosophie pour garder sa bourse de sport-études. Alors, ils vont passer un accord. Anna donne des cours de philosophie à Garrett, et en échange, elle se fait passer pour son petit ami afin de rendre jaloux Justin. Mais comme vous pouvez vous en douter, l'accord va évoluer et les deux protagonistes vont finalement éprouver des sentiments l'un pour l'autre. Alors, dit comme ça, on pourrait s'attendre à une énième histoire à l'eau de rose un peu cliché, mais la série cache en fait une intrigue un peu plus profonde. La série, réalisée par Louisa Levy, est sortie il y a à peine 2 semaines et compte déjà 36 millions de vues dans le monde. Sur la toile, tout le monde en parle, certains racontent qu'ils ont regardé les 8 épisodes de 50 minutes d'une traite, d'autres en sont déjà à leur 4e visionnage. Mais alors, pourquoi la série plaît autant ? Eh bien, premièrement, elle ne parle pas uniquement d'amour et traite de sujets lourds comme le viol et les violences intrafamiliales. Anna a par exemple été droguée puis violée lors d'une soirée lorsqu'elle était au lycée, mais s'est reconstruite depuis. Je pense que ce qui a plu aux spectateurs et spectatrices, c'est qu'elle ne se laisse pas définir par son traumatisme, et elle s'est reconstruite toute seule. Elle a consulté une psychologue, et ce n'est pas un garçon slash prince charmant qui l'a sauvée, mais bien elle-même. Un deuxième point qui différencie Off Campus des autres teen séries, c'est qu'on retrouve des femmes qui ne se comparent pas entre elles. Chacune a sa personnalité, son style et ses failles, mais elles se tirent vers le haut et il n'y a ni coup bas ni rivalité entre elles. Et surtout, elles ne sont pas là que pour tomber amoureuses. Elles ont des passions, des ambitions et des rêves qu'elles comptent bien réaliser, quitte justement à laisser leur vie sentimentale de côté. Ce qui a plu aussi, je pense, c'est que les personnages masculins, sous leurs airs de hockeyeurs bagarreurs virils et parfois un peu immatures, se montrent également vulnérables et capables de montrer et de parler de leurs émotions. Enfin, Off Campus sort aussi des romances toxiques ou d'un triangle amoureux qu'on retrouve souvent. Même si l'intrigue laisse penser qu'il y aura un triangle amoureux au départ, il est vite écarté et on se concentre sur la relation entre Anna et Garrett. Finalement, ce sont simplement deux jeunes adultes qui s'aiment et qui se le disent, et c'est sûrement ça qui fait rêver les spectateurs et spectatrices. Voilà, c'est déjà la fin d'Info Club Sandwich, mais heureusement pour vous, un ICS Plus sur le week-end de Saint-Leu arrive juste après PAX de Cléro. Merci de nous avoir écoutés et on se dit à demain sur Radio Campus Amiens. Très bonne journée à toutes et à tous.